Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Voici les titres de ce journal sur Radio Okapi. Prorogation hier mardi des 15 jours de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et Nord Kivu. Les députés nationaux déjà en campagne électorale ont retrouvé le chemin de l'hémicycle pour examiner en urgence le projet de loi portant autorisation de cette prorogation. Il y aura bel et bien élection le 20 décembre 2023. C'est le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui réagit aux rumeurs faisant état d'un probable report des élections en gestation faute de moyens et affirme que tout est techniquement en train de se mettre en place pour que les délais constitutionnels soient respectés. Dans la province de la Tchopo, le territoire de Banalia connaît des inondations depuis 2 semaines à la suite de la crue de la rivière Aruimi et de ses affluents. Le bilan et les conséquences du point de vue social et sanitaire de cette situation, nous en parlons avec notre invité docteur Patrick Mbenga, médecin chef de zone de la région. Grâce à Mzati Masanzi, je vous présente ce journal mis en onde par Polydor Basunga. Mesdames et messieurs, bonjour. Les députés nationaux, déjà en campagne électorale, ont retrouvé le chemin de l'hémicycle pour examiner en urgence les projets de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la RDC. Les 243 députés ayant pris part à la plénière d'hier mardi ont voté à l'unanimité une nouvelle prorogation de l'état de siège à Ituri et au Nord Kivu pendant les 15 prochains jours, conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution. Dans la présentation de l'économie de ces projets de loi, la ministre de la Justice a expliqué à la représentation nationale que cette nouvelle prorogation vise à permettre au FRDC de poursuivre les opérations militaires avant le remplacement total de cette mesure d'exception. Rose Mutombo est au micro de Michel Kifindangoy.
Depuis son instauration, cette mesure exceptionnelle est prorogée tous les 15 jours conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution pour continuer à produire les effets. Étant donné que la situation opérationnelle sur terrain est actuellement caractérisée d'une part par d'intenses affrontements entre nos forces armées plus que résilientes et la coalition M23-RDF et d'autre part l'activisme de Codeco à Ituri, cette prorogation permettra à nos forces de défense et de sécurité de faire face à la situation en attendant de mettre graduellement fin à ces régimes d'exception comme déjà décidé par le commandant suprême lui-même.
Entre-temps sur le terrain, au Nord Kivu, des combats opposent ce mercredi les combattants du M23 aux groupes armés locaux dans plusieurs localités du territoire des Masisi. Selon les sources locales, les tirs sont entendus depuis 8 heures locales dans les villages Nyamitaba, Kisovu et Lukala. C'est sur l'axe Kiloli-Rwe-Lushebere vers Masisi Centre. Ces sources redoutent une tentative du M23 de progresser vers le chef-lieu du territoire des Masisi. Sur le compte X, le M23 affirmait que l'armée congolaise aurait attaqué jusqu'à tard dans la soirée hier mardi leur position autour de Kiloli-Rwe, mais cela n'a pas pu être confirmé par une autre source. Toujours au Nord Kivu, l'organisation Médecins Sans Frontières donne une assistance médicale à près de 45 000 déplacés dans le site de Chabindu Kashaka. Ce site spontané situé au quartier Mugunga à l'ouest de Goma accueille depuis plusieurs mois les déplacés qui viennent pour la plupart du territoire des Masisi. Ces soins sont offerts au niveau du point de santé avancé des MSF installé dans ce site. Mais avec l'afflux des nouveaux déplacés dans ce site depuis maintenant 2 mois, cette organisation craint d'être débordée par les besoins sanitaires des déplacés. Rosalie Zawadi a visité le mardi les points de santé avancés des Médecins Sans Frontières dans les sites de Chabindu Kashaka. Voici son reportage.
On fait le triage avec les 2 infirmiers.
Le docteur Serge Quadio supervise toutes les activités de ces points de santé avancés. Il nous présente les circuits des prises en charge des malades dans cette structure opérationnelle depuis le mois d'avril. À notre arrivée, plusieurs dizaines de personnes, en majorité des mères avec leurs bébés. Et chaque jour, la fréquentation est la même, explique le docteur Quadio.
Quotidiennement, on a une moyenne de 200 patients par jour. Donc, parce que par semaine, on se retrouve autour de 600 à 700 consultations avec plus de 40% constitués d'enfants de moins de 5 ans. Donc voilà, c'est un peu ça le circuit, les consultations générales. Là-bas, c'est les malnutris. Là aussi, chez les malnutris, il y a 2 circuits. Il y a les nouveaux arrivés dans le programme et puis il y a ceux qui sont déjà en suivi. Donc les nouveaux arrivés, ils sont là. Ils ont essayé jusqu'à la consultante qui est là. Quand elle fait ses prescriptions aussi, le patient il va pour prendre les médicaments, les plans pilotes et tout ça. Puis il reçoit avec un rendez-vous pour le suivi.
Sans l'amélioration de leurs conditions de vie, même ceux qui sont soignés finissent par retomber malades, déplore l'organisation Médecins Sans Frontières qui plaide pour une grande mobilisation en faveur de ces déplacés. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Et pour cette nouvelle en plus bref, il y a coupure générale du courant observée dans la ville de Goma depuis la nuit sur le réseau de la société Virunga Energy. Dans un communiqué publié ce mercredi à cet effet, la société parle d'une panne qui s'est produite à la centrale hydroélectrique de Matebe. Et du coup, plus de 30 000 ménages dans la ville de Goma sont plongés dans le noir. La direction générale de cette société rassure que toute la chaîne logistique est mobilisée pour acheminer et remplacer la pièce défectueuse dans les meilleurs délais. Néanmoins, cela prendra du temps, déclare-t-elle. La société Virunga Energy demande à la population de prendre les dispositions nécessaires. Merci de nous recevoir à Kalima et à Salamabila dans le Maniema, où la division provinciale du genre, famille et enfants a lancé hier mardi les activités des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. C'était lors de la séance des plaidoyers que cette division a organisée à l'intention des leaders d'opinion dans le cadre des luttes contre les violences basées sur le genre devenues monnaie courante au Maniema. Dans ce mot, Régine Kapunga Sifayao a parlé de plus de 70% des femmes du Maniema victimes de violences, d'où son interpellation à tous afin de s'engager davantage pour des actions concrètes, afin de mettre fin à ces actes ignobles. Régine Kapunga Sifayao au micro de Florence Kizalunga.
En tout cas, cette année-ci, c'est catastrophique. Parce que quand je regarde l'année passée, c'était 25 517. Mais pour cette année ici, c'est 29 053. Vraiment, ce sont les enfants, surtout, qui ont pris un grand nombre. En ce qui concerne les mariages précoces, sont arrivés les 7 territoires, ainsi que la ville de Kindu, à 11 227. Et en ce qui concerne les viols, le total s'élève à 8 397. Mais quelque chose nous rend triste, c'est cette prise en charge qui n'est pas là. La fille qui est violée, la femme qui est violée, doit parcourir les hôpitaux. On l'a amenée ici et quand on l'amène dans un hôpital privé, je ne sais pas, on lui demande des frais au moment où ses victimes, nous les considérons déjà comme les vulnérables. Ça, c'est une situation sur laquelle on doit y veiller.
Je l'ai dit dans les titres, à 3 semaines de la tenue des élections, la Commission électorale nationale indépendante persiste et signe. Les élections auront bel et bien lieu et tout est techniquement en train de se mettre en place pour que les délais constitutionnels soient respectés. Au cours d'une mise au point hier mardi ici à Kinshasa, le président de la CENI, Denis Kadima, a démenti toute rumeur faisant état d'un probable report des élections en gestation faute de moyens et a profité de l'occasion pour inviter les candidats à bien battre campagne. Pour le président de la centrale électorale, aucune fraude n'est envisageable, aucun changement des résultats par la CENI ne sera possible. Seront déclarés élus ceux qui obtiendront la majorité des voix conformément à la loi électorale, précise Denis Kadima. Mais où en sommes-nous avec le déploiement des matériels électoraux? Michel Kifindangoy.
D'après une source au sein de la CENI, toutes les machines à voter nécessaires ont déjà été déployées dans toutes les 24 provinces à l'exception de Kinshasa et Congo central. Les machines attendues de Séoul seront donc déployées dans les deux provinces dès leur arrivée à Kinshasa et cette opération ne pourra prendre qu'une semaine. Réagissant notamment aux propos du cardinal Fridolin Ambongo qui émettait dimanche dernier des doutes sur la tenue des élections et sur la transparence du processus, le président de la CENI rassure. Denis Kadima.
Les candidats qui vont bien travailler, c'est-à-dire en termes de campagne, ont beaucoup plus de chances d'être élus par leurs électeurs et la CENI ne changera pas ces résultats-là. Ceux qui auront gagné, gagneront. Et ceux qui auront perdu, perdront et devront se préparer pour 2028. Alors, les élections auront lieu à la date prévue. C'est le 20 décembre 2023. Et ça sera des élections inclusives, transparentes. Ça sera des élections crédibles. Nous vous donnons notre parole.
Pour rappel, Denis Kadima évoquait il y a une semaine à Radio Okapi que la CENI attendait du gouvernement plus de 300 millions de dollars pour couvrir son budget, mais aucune contrainte technique ne pourra empêcher à ce stade la tenue des élections.
Michel Kifinda Ngoy, merci pour toutes ces précisions. La population de l'Ituri doit être vigilante pour voter des candidats députés ou présidents de la République qui méritent et non ceux qui vendent des promesses fallacieuses. Ces propos sont du Monseigneur évêque catholique du diocèse de Bounia lors d'un point de presse qu'il a animé hier sur place. Dieudonné Ouringi dit éveiller la conscience principalement des jeunes pour qu'ils votent pour des candidats qui vont sortir l'Ituri de la misère qui persiste depuis environ une décennie. Ce prélat a évoqué les tueries, destruction des infrastructures, déplacement des populations à cause de l'activisme et des groupes armés. Un extrait de ses propos est choisi par Jean-Claude Loki d'Ilé.
Nous devons être attentifs et intelligents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux-là qui viennent demander pour devenir de nouveau président ou devenir député national ou provincial, quand ils se présentent, nous devons leur demander vraiment quel est leur objectif. Pour moi, personnellement, la propagande serait même quoi? De les voir déjà travailler pour en finir avec les tueries, les destructions des infrastructures, les déplacements donc de tout ce monde et qui vivent dans les sites des déplacés. Ça aurait été une propagande pour eux parce que les gens pourraient tout simplement dire « il nous a sauvés ». Vous les jeunes maintenant, réveillez-vous. L'avenir, le futur de ce pays repose sur vos responsabilités. Si vous faites des élections qui ne sont pas dignes, alors nous allons continuer dans la misère, dans les tueries, les massacres. Mais si vous êtes sages, votez des personnes dignes, alors à ce moment-là, on est sauvé. Qu'ils puissent bien regarder qui votait et qui n'est pas voté.
Pendant ce temps, certains candidats présidents de la République poursuivent leur campagne électorale à travers le pays. Moïse Katumbi, candidat numéro 3, est arrivé cet avant-midi à Kalemie dans la province du Tanganyika. Il est accompagné d'une foule et se dirige à pied vers les lieux où il va tenir un meeting. De son côté, le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, a quitté Bounia ce matin pour Kisangani dans la Tchopo. Puis, de là, il devra aussi se rendre à Bouta, au Bazouélé. Quant au docteur Denis Mukwege, il a tenu un meeting à Beni hier mardi dans l'avant-midi. Au cours de son adresse, le candidat numéro 15 a notamment salué la résilience de la population de Beni. Toujours hier mardi, la ville de Beni a accueilli Martin Fayoulou, candidat numéro 21. Avant la ville de Beni, il était à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Le candidat président Constant Mutamba, candidat numéro 2, a quitté hier mardi la ville d'Inongo, chef-lieu de la province du Maïndombe pour Kinshasa après avoir été bloqué pendant 24 heures faute d'avion. Dans le territoire de Beni au Nord Kivu, plusieurs localités du groupement Bassoa Madiwe dans le secteur de Beni Mbao sont privées des voies de communication depuis 3 semaines. Le pont qui les reliait a été emporté par les eaux de pluie. La population qui veut se rendre dans ces champs met sa vie en danger en voulant traverser la rivière à pied. Comme conséquence, la hausse du prix des oignons et poireaux est constatée dans la région car les zones productrices sont inaccessibles. Le président de la société civile du groupement Bassoa Madiwe demande aux autorités de jeter un pont durable sur cette rivière car les ponts de fortune conçus par la population sont de courte durée et pas très fiables. Justin Paloku Kavalami est au micro de Marc Marufimbo.
C'est le pont qui facilite les habitats de Runzai, d'Enkazi, de se joindre au niveau de Visiki et Mambombo, mais aussi ça facilite certains cultivateurs de Mabalako, de Runzai, d'accéder à leurs champs. C'est une difficulté totale qui empêche ces derniers de se ravitailler à vivre, mais aussi par rapport aux habitats d'Enkazi, ils ont connu une difficulté où les vendeurs des oignons, des poireaux ne peuvent plus accéder à leur marché. Et certains élèves des villages Masangi et Masangi et Mambombo sont vraiment bloqués parce qu'il est difficile à un enfant de 10 ans, de 14 ans de traverser dans la rivière. Et des fois ça pleut car les gens sont dans leur champ et on est obligé de passer une nuit sans même avoir le programme de passer une nuit dans leur champ parce qu'on est incapable de traverser la rivière. C'est pourquoi on est en train de plaider auprès des autorités compétentes d'avoir une passeuse pour la contrée de Mambombo, surtout que le poste n'est pas pour sa première fois d'être emporté par les eaux de la rivière.
Actualité internationale.
Le gouvernement kenyan a annoncé hier que 120 personnes avaient perdu la vie à la suite des pluies torrentielles provoquées par El Niño qui s'abat sur la corne de l'Afrique depuis plusieurs semaines. Le phénomène météorologique qui touche de nombreuses régions du Kenya a conduit au déplacement de près de 90 000 familles.
L'invité.
Dans la province de la Tchopo, le territoire de Banalia, connaît d'inondations depuis 2 semaines à la suite de la crue de la rivière Aruimi et de ses affluents. Quel est le bilan de ces inondations 2 semaines après? Quelles en sont les conséquences du point de vue social et sanitaire? Et que faire pour protéger les populations des maladies d'origine hydrique? Le docteur Patrick Mbenga, médecin chef des zones de santé de Banalia, s'entretient avec Jacques Mukonkoli.
Docteur Patrick Mbenga, bonjour.
Bonjour.
Plus ou moins 2 semaines depuis le début des inondations à Banalia. Quelle année le bilan à ce jour?
Oui, les inondations touchent à ce jour 1801 ménages qui se sont déplacés. Il y a une centaine de maisons qui se sont écroulées. 10 445 personnes sont dénombrées parmi les déplacés, 418 femmes et 1774 enfants de moins de 5 ans.
Hormis la cité de Banalia, est-ce qu'il y a quelques villages qui sont également affectés? Si oui, lesquels?
Oui, il y a les villages qui sont atteints, c'est Bobende, Bokango, Bokadinga, Basanjasile, Bokote, Bobabe, Bobolo, Bandindi, Bogbamboli, Longele, Afilondo, Bobolia, Bosadinga. Voilà les quelques villages où nos équipes de superviseurs sont descendues. Ça fait 13, mais au total, c'est 19 villages qui sont sous l'eau.
Docteur Patrick Mbenga, il y a certainement un impact visible par rapport à cette situation du point de vue social et sanitaire.
Nous sommes pendant la campagne de distribution de Milde avec l'appui des SANRU et APEC et ces activités sont sérieusement perturbées par les inondations. Il y a aussi la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui est aussi perturbée car les ménages déplacés nous donnent des difficultés dans le pré-marquage, le marquage et la distribution proprement dite. Et surtout dans la géolocalisation parce que nous faisons les activités des distributions avec les trinômes, avec l'ODK. Il y a la prolifération déjà des lots et cette prolifération massive des eaux va entraîner la prolifération des moustiques avec conséquence la pilulation des maladies, notamment le paludisme dont la fréquence augmente déjà. Mais nous avons aussi le risque de développement de la dengue et de chikungunya. Mais il n'y a pas que ça, il y a le choléra, il y a la fièvre typhoïde, la leptospirose, même l'hépatite. Voilà les risques auxquels sont confrontées les populations de Banalia. Toutes les sources sont inondées.
Que faire pour juguler cette crise, Dr Patrick?
Au niveau de la zone de santé, nous avons élaboré un plan de contingence. On a présenté au comité, on a activé les comités de gestion des urgences. Et nous avons commencé par le dénombrement. L'administrateur du territoire a mis à la disposition de la zone les chefs des quartiers, des groupements et la Croix-Rouge qui font le dénombrement. Et nous sommes en train de lancer le cri d'alarme parce que déjà presque toute la population de Banalia, de la zone de santé de Banalia, est privée d'eau potable. Et ainsi, il y a vraiment risque de flamber. Il y a communication entre donc les eaux ont couvert même les fosses septiques et la principale source d'eau ici ce sont les puits et tous ces puits là sont couverts par ces eaux contaminées. En tout cas, nous avons ces plans de gestion des urgences sanitaires et pour ce plan nous entrevoyons entre autres qu'on puisse vraiment apporter tout ce qu'il faudra pour la sensibilisation de la population, tout ce qu'il faudra pour la désinfection des eaux, tout ce qu'il faudra pour arranger les abris.
Où se trouvent les sans-abri? Où sont-ils logés?
Il y a les églises et le stade, donc le terrain de football. Parce qu'il y a des abris qu'on a pris du côté des Côtes du Nord, chez Monsieur Abili qui nous a donné. Donc les efforts se font, mais nous avons vraiment besoin d'activer notre plan de gestion des urgences qui est déjà disponible.
Dr Patrick Mbenga, médecin chef de zone du Banalia, merci.
Merci.
Notre invité était interrogé par Jacques Moukonkole. 12h20 dans ses studios de Radio Kapi Kinshasa. Ce journal de midi touche à sa fin. Merci à Noëlla Luzituka Bambi pour la coordination et Martin Sebujangwe pour la supervision. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.